Bonjour et merci de m'accueillir dans votre séance de travail. Je demande toute votre indulgence parce que c'est une première pour moi de présenter à des universitaires le travail que nous faisons dans le Conseil général du Val-de-Marne. Donc je ne reviendrai pas sur la présentation qu'a fait Aurélie du pôle enfance et famille. C'est un pôle qui gère l'ensemble des politiques d'action sociale, d'émancipation, d'accompagnement des enfants et des familles sur le Val-de-Marne. Et très concrètement, par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui, en fonction des dispositifs, notre public d'origine étrangère ou de nationalité étrangère représente 30 à 60% de nos usagers, de nos bénéficiaires. Donc voilà, je dirais que c'est presque, pour certains dispositifs, le public majoritaire, notamment en protection de l'enfance, ce qui nécessitait qu'on se pose quelques questions. Donc c'est un petit peu plutôt un état des questionnements de ma place que je vais vous proposer aujourd'hui avec, pour terminer, une courte représentation, encore une fois, de la place de l'administration départementale, de ce qui a été pour nous l'apport d'une recherche et d'un chercheur dans la mise en œuvre de nos politiques d'action sociale à destination des personnes d'origine ou de nationalité étrangère. Je voudrais, dans un premier temps, peut-être assez brièvement, vous expliquer quelles sont les tensions, en tout cas c'est comme ça que je les qualifie, les tensions à l'œuvre dans nos politiques d'action sociale entre les principes d'universalité, les principes d'égalité et la nécessaire adaptation à des publics qui sont de plus en plus hétérogènes de par leur durée d'installation sur le territoire français, de par leur nationalité, de par leur pratique culturelle, de par leur pratique religieuse. Donc, voilà, une diversité des publics qui s'adressent à un dispositif d'action sociale qui est fondé sur le principe de l'universalité, de l'égalité des droits et de la laïcité. Donc on voit bien comment ça peut faire tension. Ça produit, me semble-t-il, une accessibilité de façade pour ces publics, puisque l'inadaptation des modes de faire, l'inadaptation des processus d'accompagnement pour des publics aussi différents, va construire des grands principes d'accessibilité, des grands principes d'égalité des droits, mais qui, dans la pratique, vont se heurter à des freins importants, dont le frein de la langue, mais pas seulement. Je dirais des freins importants de la représentation que les professionnels vont avoir de ces publics et de comment ils vont articuler ces représentations professionnelles avec les dispositifs légaux, les dispositifs réglementaires et les dispositifs d'accompagnement. Avec, me semble-t-il, un préalable, c'est comment, et j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que l'intégration était un processus réciproque, quand on construit des politiques d'action sociale, en tout cas des modalités d'exercice des politiques d'action sociale, on doit, me semble-t-il, comprendre la culture de l'autre pour l'aider à intégrer la culture du pays d'accueil et en même temps, cette intégration bouleverse la culture du pays d'accueil. Donc on est bien dans un processus itératif dont les modalités d'accompagnement social ne peuvent pas s'exclure. Et on va bien voir comment le fait de tenir compte des cultures différentes et des modes de faire différents va transformer les pratiques d'accompagnement. Et la transformation des pratiques d'accompagnement va bénéficier à bien d'autres publics que les publics migratoires. Donc, je ferai une parallèle, comme quand on construit des rampes pour les handicapés, ça bénéficie aussi au moment qu'ils poussent les poussettes. Vous voyez, hein, c'est peut-être un peu schématique ce que je veux dire, mais l'intérêt de ces interactions. Alors, je vais rappeler les tensions à l'œuvre, pour moi, c'est d'abord les tensions propres aux politiques sociales. Les politiques sociales, ce sont des politiques qui ont un objectif d'émancipation de la personne accompagnée, avec comme corollaire l'accès au droit, à l'autonomie. Mais ces politiques d'action sociale, en tout cas pour les politiques enfance-famille, sont aussi des politiques de contrôle social, notamment pour les politiques de protection de l'enfance et de protection maternelle et infantile. Donc déjà, on a des politiques qui font tension dans leurs objectifs. ces tensions-là qui construisent l'identité de nos politiques sociales. Après, de temps en temps, on se révolte contre ces tensions-là. Pour moi, elles me semblent nécessaires puisque c'est notre identité. On a ces deux objectifs-là, il faut savoir les tricoter ensemble. Eh bien, ces tensions-là, quand elles vont s'adresser à des publics en situation migratoire ou à des publics d'origine étrangère, eh bien, vont venir renforcer la tension, je dirais, basique entre la culture d'accueil et la culture d'origine. Donc, on va être dans un phénomène encore plus tendu. Et comme souvent, pour essayer de dépasser ces tensions à l'œuvre, les professionnels et individuellement et en équipe, vont essayer de construire du sens, essayer de construire des objectifs partagés pour pouvoir dépasser les tensions à l'œuvre. Et quand le bénéficiaire de l'accompagnement est très éloigné des codes culturels du professionnel ou de l'équipe de professionnels, ce que moi je peux observer, c'est que la tendance va être à réduire, nier ce qui fait tension, nier les différences, pour être dans un processus de réassurance pour le professionnel et pour l'équipe, et de se raccrocher à ce qui est commun, de façon à asseoir son accompagnement, et... s'il n'est pas accompagné, ce professionnel de cette équipe a plutôt évacué ce qui est différent de ce qui ne fait pas commun, de ce qui ne fait pas communauté. Et donc, en général, on a une forte tension sur l'accompagnement de ces publics, une forte tension qui s'énonce rarement parce qu'on voit bien tout de suite quelles vont être les connotations qui peuvent émerger si ces tensions sont explicitées. Quand on a commencé à travailler ça au Conseil général du Val-de-Marne, des très forts refus du politique, les conseils généraux, donc c'est des compétences décentralisées, ce sont les élus, conseils généraux, qui vont élaborer les politiques publiques, et donc une très forte tension du politique à ce qu'on puisse assigner à nos services sociaux, et donc dans nos processus d'accompagnement, cette question de la diversité et cette question de comment on adapte nos pratiques, nos politiques à cette diversité. Donc un refus du politique pendant de très nombreuses années, au nom, de l'égalité, de la laïcité, d'un refus d'apparaître comme pouvant pratiquer des politiques favorisant le communautarisme. Je vous dis quels ont été les stéréotypes de base quand on a commencé à vouloir travailler ces questions-là. Et également, puisque nous sommes en région Île-de-France, avec toutes les tensions qui ont lieu autour de la question culturelle, là, pas que culturelle, mais culturelle, un refus de pouvoir dire qu'on adapte nos politiques à la religion, entre guillemets, des usagers. Donc déjà, une tension politique qu'il a fallu lever en expliquant un certain nombre de choses pendant plusieurs années. Donc Lola arrive après un processus pour nous, je ne dirais pas que c'est une conclusion, mais un processus de plus de 10 ans de travail avec les élus et avec nos professionnels. Et puis pour nos professionnels, comme je vous l'ai dit, des tensions à l'œuvre, au-delà des tensions que j'ai expliquées dans mon introduction, des tensions encore plus prégnantes, puisque accompagner des publics qui ne parlent pas la langue ou qui ne parlent pas selon le professionnel, suffisamment la langue pour appréhender l'accompagnement, en sachant que nos pratiques professionnelles sont souvent basées sur des accompagnements individuels, avec des interactions personnelles. Donc vous voyez que tout de suite, quand la modalité d'approche et d'accompagnement est de ce type, comment tout de suite le frein langagier va devenir un frein à la rencontre, en tout cas peut devenir un frein à la rencontre, donc un frein à l'aide. Et puis, là encore, tension à l'œuvre pour nos professionnels, puisque... Je suis tranquille, il n'y a pas tous les éducateurs et assistants sociaux dans la salle. Pour les professionnels, l'accompagnement, il n'est jamais très éloigné de la question du pouvoir sur l'usager. Hein. Et de faire pour l'autre plutôt que faire avec l'autre, et d'un sentiment, je ne dirais pas de condescendance. Mais, voilà. De possibilité, en tout cas, si tout ça n'est pas bien étayé, de prise de pouvoir sur l'usager. Quand l'usager est assigné à une place où il ne comprend pas la langue, où il a des mœurs incompréhensibles ou des mœurs éloignées. On voit bien comment la question, la prise de pouvoir, car les risques de prise de pouvoir sont renforcés dans l'accompagnement individuel. Donc, pour nos professionnels, dépasser ces tensions-là, c'est des enjeux extrêmement importants, c'est s'autoriser à questionner ses représentations professionnelles, mais aussi ses représentations intimes de l'altérité, s'autoriser à les questionner en équipe et s'autoriser à questionner sa relation de pouvoir à l'usager. Donc, ça fait que tout ça ne crée pas obligatoirement des terrains d'évolution simples. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais je dis que déjà c'est très complexe au départ. Alors, quels sont les outils avant Lola qu'on a commencé à faire émerger, et toujours dans le cadre d'un processus itératif, on a essayé de travailler un certain nombre d'approches interculturelles. Alors, avec ce qui existait dans le champ du social, et notamment dans le champ de la protection de l'enfance, donc plutôt dans le champ du psychosocial, les apports de Toby Nathan et après des autres écoles d'ethnopsychiatrie, d'ethnopsychologie, qui ont été les premiers outils d'approche des publics d'origine étrangère ou de nationalité étrangère. Et donc on voit bien avec quel prisme ces publics ont été approchés. Un prisme du trouble, hein, de ce qui fait trouble. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se construire, nous, dans le champ du social, sur ces questions-là, et notamment sur la protection de l'enfance, sur la protection maternelle et infantile. Après, nous avons introduit plutôt des pratiques d'ethnopsychologie, d'ethnosociologie, avec une approche anthropologique, sur, plus particulièrement, nos politiques d'éducation, et notamment nos politiques d'éducation à la santé, et nos politiques d'accompagnement des mères et des enfants. Donc avec des objets extrêmement pragmatiques, le nourrissage, les pratiques nourricières, parce qu'on ne peut pas construire un message d'éducation à la santé, et notamment d'éducation à la santé des tout-petits en destination des mères, si les équipes n'ont pas un petit peu informé des pratiques nourricières, mais tout ça dans des choses extrêmement pragmatiques. Comment une maman africaine qui ne trouve pas de mil ou qui ne trouve pas de manioc va pouvoir trouver sur le marché la céréale occidentale qu'elle va pouvoir cuisiner pour compenser l'absence de mil ou de manioc, etc. Donc vraiment, sur des gestes du quotidien, des représentations du quotidien, la PMI, en tout cas dans le Val-de-Marne, a commencé à construire une vraie culture professionnelle autour de l'accompagnement des familles étrangères sur des actes, sur des missions, des fonctions très précises, la fonction nourricière, la fonction d'éducation, la fonction d'allaitement, et puis après, bien évidemment, tous les questionnements qui se sont posés sur la question de la filiation au regard de la question des mariages forcés, au regard de la question des mutilations sexuelles. Donc à chaque fois, au regard de ce qui vient impacter en termes de comportement entre guillemets déviant, la culture du pays d'accueil. Troisième compétence que nos professionnels, et notamment nos professionnels de PMI, ont acquis, ce sont les pratiques d'accompagnement communautaire, et notamment tous nos professionnels de PMI sont formés en santé communautaire. Alors pourquoi je précise cette mode d'approche, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos modes d'approche qui sont dans l'interaction individuelle entre l'aidant et l'aidé, eh bien, pour certaines populations, cette interaction individuelle, elle est assez étrange. Et ils n'arrivent pas à se l'approprier. Donc, c'est vrai que l'apport de la PMI, qui, elle, s'est formée en santé communautaire de façon extrêmement volontariste, hein. Tous nos professionnels de PMI doivent se former en santé communautaire. Ce n'est pas vrai dans les autres départements, c'est un choix de politique de formation que nous avons fait, avec l'idée, et là aussi la santé communautaire ne s'adresse pas qu'aux personnes migrantes ou d'origine étrangère, mais avec l'idée qu'on ne peut construire un dispositif de prévention d'éducation qu'avec les acteurs précédemment concernés et avec les dynamiques de groupe, que ce soit des dynamiques familiales, des dynamiques de quartier ou des dynamiques de pairs, PAIR, formés. Donc, comment on construit avec une communauté, quelle qu'elle soit, les messages de prévention, les approches de prévention, la transformation des pratiques des uns et des autres. Donc, quand on a commencé à penser à la question langagière et à la question de l'insertion, on avait un paysage de professionnels qui partaient pas de rien, qui avaient déjà une culture de base à partir de pratiques de médiation interculturelle et de santé communautaire, et à partir d'un certain nombre de concepts, de formations autour de l'ethnopsychiatrie et de l'ethnosociologie, notamment dans le champ de la famille, et donc autour des compétences d'éducation et des compétences et des questions d'organisation de la filiation, d'organisation des mariages, d'organisation de la transmission. Donc voilà pour présenter le paysage rapidement. Mon deuxième point sera un peu plus court, même s'il est plus intense. C'est comment on a travaillé dans le cadre de cette convention CIFRE. Donc c'est vrai que ça a été, comme souvent, l'histoire d'une rencontre. Donc on en était là de nos réflexions. On en était là de nos réflexions en se disant qu'on n'avait pas assez d'assistantes maternelles sur le Val-de-Marne, qu'on avait des problématiques de mode d'accueil, que la PMI nous disait qu'elle ne pouvait pas agréer toutes les candidates parce qu'elle ne possédait pas le bagage linguistique nécessaire pour être agréée assistante maternelle, et que nos outils d'accompagnement n'étaient pas suffisants. Donc Aurélie s'est présentée avec son sujet de thèse, et on s'est dit que ça pourrait être intéressant dans le cadre d'une convention CIFRE, de proposer à Aurélie de nous imaginer, à partir de ce qu'on lui disait là, ce que je vous dis là, voilà quels sont nos atouts, mais voilà quels sont nos freins, voilà quels sont nos objectifs, à la fois un objectif très pragmatique, comment on augmente le nombre d'assistantes maternelles dans le Val-de-Marne, très pragmatique, parce qu'on a des pénuries de mode d'accueil, avec un autre objectif très pragmatique, mais un peu plus éloigné, comment on a des leviers d'émancipation des femmes migrantes, si on veut avoir des femmes émancipées qui élèvent les enfants dans les quartiers, parce qu'on sait bien que tout ça c'est bien lié, l'éducation des enfants, l'émancipation des femmes, et donc dans une politique d'éducation, comment on peut compter sur des mères qui ont fait un parcours d'émancipation. Donc on lui a posé ça un petit peu comme ça, et c'est à partir de ce moment-là où on lui a demandé de nous faire quelque chose de pragmatique. C'est-à-dire on voulait bien d'avoir un chercheur doctorant auprès de nous, mais on voulait que sa participation, enfin son action, soit sur un objet immédiatement appréhendable par nos professionnels, par nos politiques. Je vous ai dit quelles étaient les tensions politiques au départ, donc il fallait qu'on prouve quelque chose. Hein. Donc quelque chose d'immédiatement appréhendable, de visible, et qui fasse levier, fortement levier, sur les représentations que nos professionnels pouvaient avoir de ces populations féminines issus d'immigration. L'intérêt que c'était une démarche CIFRE, donc une démarche de recherche, c'est que, bien évidemment, mais Aurélie le dira mieux que moi peut-être dans le courant de la journée, les résistances étaient, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, elles étaient fortement présentes, les résistances. Pour tout ce que j'ai dit, puis aussi par le fait, mais nous on sait. Nous on sait, on a déjà des formations, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre de plus, on sait tout ça. Donc le fait que ce soit une démarche de recherche, validée dans le cadre d'une thèse, apporter de l'extériorité, apporter de la fierté aux professionnels qui participaient à cette démarche-là, donc de la légitimité aux questionnements qui leur étaient proposés, et a permis à Aurélie de travailler sur les résistances, qui ont été nombreuses au départ, pour construire ce dispositif. Donc voilà, et ça a été extrêmement important, ce regard extérieur du chercheur, qui était un regard actif, c'est pas qu'un regard d'ailleurs, une action complètement pragmatique et de construction, en faisant avec nos professionnels, en faisant avec le public, pour construire un dispositif extrêmement lisible, en tout cas pour nous extrêmement lisible. Donc voilà, au bout de 2 ans, ce à quoi on aboutit, le projet Lola existe, il a une véritable existence dans le paysage, on commence à voir qu'il peut faire levier. Alors comme d'habitude, il fait plus levier à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça, c'est normal, ça reviendra faire levier à l'intérieur, ça c'est normal. Mais voilà, c'est ça que je voulais présenter rapidement, les tensions et comment ce dispositif d'accompagnement langagier à une pratique professionnelle a fait levier pour la représentation que nos publics, que nos professionnels ont de ce public à accompagner.